Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi du commentaire « Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point ». Et bien, on vous présente le rappel de l'actualité. Et bien, on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distinction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Les communautés à la frontière de l'Indonésie avec les pays voisins doivent obtenir l'accès à l'information facile. Les petites et moyennes entreprises ou PME de l'Indonésie se développeront si elles sont intégrées avec les différents secteurs. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré « Le monde est responsable de la destruction des forêts indonésiennes ». Le ministère des Communications et des Technologies d'Information demande aux médias à la frontière pour garder l'image du pays. L'Indonésie et le Timor-Leste sont d'accord pour résoudre les questions frontalières. Et enfin, Kadin Indonésie cible l'Indonésie comme centre mondial de la transformation de pêche. Voici le journal complet. Les communautés indonésiennes à la frontière avec les pays voisins ne peuvent pas être laissées derrière pour obtenir l'accès à l'information facile. Ils doivent obtenir des services optimaux du gouvernement indonésien compte tenu de l'ensemble des informations encouragera la qualité des ressources humaines indonésiennes, en particulier ceux qui vivent dans les régions frontalières. Cela a été dit par le vice-chef de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, Ahmadi Abbas, en marge du séminaire et l'atelier de Grace Road d'innovation dans la capacité croissante et la compétitivité des PME au bâtiment de LIPI, Jakarta, mercredi.
Jadi permasalahannya itu fasilitasi. Fasilitasi itu
donc le problème est les installations. Non seulement la disponibilité des équipements et des infrastructures, mais aussi l'accès à l'étude. Il y a encore moins d'accès. De toute façon, notre pensée va développer et faire progresser si nous obtenons des informations de l'extérieur. Nous devons leur donner cette information, ainsi l'accès vers l'information pour ceux qui vivent dans la région frontalière devraient être donnés. En outre, Ahmadi Abbas a également déclaré que l'accès facile à obtenir de l'information pour les communautés indonésiennes à la frontière est une obligation qui doit être prioritaire. Les communautés devraient également obtenir des informations sur le développement indonésien pour augmenter leur niveau de vie. Les hommes d'affaires des petites et moyennes entreprises PME en Indonésie devraient augmenter la coopération avec les diverses parties concernées à développer l'économie. Le succès des hommes d'affaires devrait également être soutenu par la réglementation gouvernementale. Cela a été transmis par le chef de l'Institut de la démocratie pour la science et la technologie, Ilham Akbar Habibi, en marge du séminaire et l'atelier de grassroots de l'innovation dans l'amélioration de la capacité et la compétitivité des petites et moyennes entreprises au bâtiment de Lipi à Jakarta mercredi.
Saya tekankan bahwasanya kalau kita mau sukses, kita harus membunuh klaster.
Jadi adanya Je souligne, si nous voulons être succès, nous devons former un cluster. Les PME doivent coopérer avec les institutions et les universitaires comme l'université ou l'école professionnelle SMK. Puis, il y a aussi la coopération avec une communauté active qui a l'attention sur une question comme source d'information. Donc, tout doit être soutenu par le système de réglementation gouvernementale. Le gouvernement fournit des installations telles que les incitations et le soutien direct de la formation. Ilham Akbar Habibi a également déclaré que le gouvernement indonésien devrait mettre en œuvre une percée importante pour protéger et encourager l'existence des hommes d'affaires des PME. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que la restauration des tourbières et la destruction des forêts en Indonésie avaient besoin de coopération internationale car les pays du monde devraient également être responsables de tous les dommages. Cela a été dit par le vice-président Yusuf Kalla après une réunion pour discuter de la restauration des tourbières à New York, les États-Unis, mercredi soir. Selon le vice-président, la déforestation en Indonésie a eu lieu depuis 30 à 40 ans dans lequel les pays développés sont venus à exploiter les ressources forestières pour répondre à leurs besoins pour les meubles et des autres. Le vice-président Yusuf Kalla a affirmé il y a 30 à 40 ans, il n'y a de personnes indonésiennes qui ont participé à détruire la forêt. Mais les immigrants qui commettent des actes de vandalisme. Par conséquent, le vice-président espère que les pays du monde devraient également être responsables. Selon Yusuf Kalla, pour réparer les dommages causés aux forêts, l'Indonésie ne peut pas travailler seule parce qu'il requiert un coût très important. Le ministère des Communications et des Technologies d'Information, Kemkominfo, demande aux médias de masse dans la région frontalière pour maintenir une image positive de la nation et de l'État de l'Indonésie. Il a été déclaré le directeur général de l'information et de la communication publique, IKP de Kemkominfo, Madame Rosarita Niken Widyastuti à Batam, les îles de Riau, mardi. Les médias de masse dans la région frontalière ont la fonction de la diplomatie à la deuxième ligne entre les deux pays, de sorte qu'il faut garder l'image de l'Indonésie pour la communauté internationale. En outre, les médias de masse à la frontière, qui peuvent être accessibles directement par les pays voisins, doivent maintenir l'optimisme. Le président Joko Widodo donne une grande attention aux personnes à la frontière. Le ministère des Communications et des Technologies d'Information a déjà des programmes pour toucher les communautés frontalières en conformité avec ses obligations de donner des informations aux personnes à la frontière. Kemkominfo espère des informations actualisées qui peuvent être accessibles par les gens de la ville peuvent également être connues pour la société dans la frontière. Les gouvernements de l'Indonésie et le Timor-Leste ont convenu d'encourager l'achèvement des négociations de la région frontalière entre les deux pays. Cela a été dit par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, dans une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste, Hernan Nicolo, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 20 septembre 2016. Selon le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta mercredi, les discussions du progrès des négociations sur les frontières terrestres entre les deux pays est une préoccupation majeure dans la réunion bilatérale des deux ministres des Affaires étrangères. Bien qu'il existe encore des différents points de vue liés aux questions en cours de négociation, les deux parties croient que l'engagement et le soutien politique qui a été donné par les chefs d'État de l'Indonésie et le Timor-Leste seront en mesure d'accélérer le processus de négociation. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté de la coopération bilatérale dans diverses organisations internationales. La Chambre de commerce et de l'industrie, CADIN, cible l'Indonésie comme centre de la transformation de pêche dans le monde, en créant une synergie avec le gouvernement d'augmenter l'industrie de la pêche nationale. Il a été déclaré le vice-président de CADIN, chargé de la mer et de la pêche, Yudi Prayanto, à travers un communiqué de presse cité par Antara. Selon Yudi Prayanto, le développement du programme de l'élevage des crevettes, des algues et de la pêche est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Il a dit qu'avec la croissance de l'industrie de la pêche nationale, le bien-être des pêcheurs indonésiens permettra également d'augmenter. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto, est optimiste que l'industrie de la pêche nationale va se développer immédiatement en ligne avec l'engagement du gouvernement à émettre une instruction présidentielle numéro 7 de 2016 sur l'accélération du développement de l'industrie nationale de la pêche. À cette fin, Airlangga a engagé à encourager la croissance de l'industrie de la pêche nationale et a besoin d'une forte synergie avec les parties prenantes concernées. Série de tard, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. C'est exemple longtemps. Après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire ayant pour le titre Éradiquer la corruption sans arrêter. La Commission pour l'éradication de la corruption au KPK montre à nouveau ses performances dans la lutte contre la corruption. Samedi soir, le 17 septembre, une équipe de KPK a réussi à attraper dans les mains d'un groupe de personnes soupçonnées de corruption dans notre fonctionnaire de l'État. Ceci est la deuxième fois après qu'auparavant, en 2013, KPK avait arrêté le chef de haute institution d'État impliqué dans la corruption. La lutte contre la corruption sans fin menée par la Commission fait partie d'une forte détermination de l'amont vers l'aval dans l'élimination de la corruption qui perd beaucoup le pays. En réponse à la récente performance du KPK, le président Joko Widodo soutient pleinement l'action menée par le KPK. Il exhorte toutes les parties à cesser toutes les choses qui mènent à la corruption. Le gouvernement est déterminé à ne pas interférer avec les procédures engagées par la Commission. En traitant de tout problème de la corruption, la Commission a agi en conformité avec l'autorité et être professionnelle. L'éradication de la corruption est une série d'activités qui ne prend pas seulement de prendre des mesures, mais aussi pour prévenir la corruption. Ces efforts sont réalisés par la coordination, la supervision, surveillance, d'enquête, de poursuite et de prouver devant le tribunal avec la participation du public sur la base des lois en vigueur. Jusqu'à présent, l'approche de la lutte contre la corruption a beaucoup mis l'accent sur les politiques qui sont répressives. Les politiques ne sont pas mal, mais elles ne suffisent pas. Ainsi, les efforts de prévention par le biais de l'amélioration du système qui reproduit la corruption sont importants à faire. La lutte contre la corruption exige de bonnes stratégies pour libérer l'Indonésie de la corruption afin que les idéaux de l'indépendance indonésienne d'être prospère peut être réalisés. Fondamentalement, l'éradication de la corruption n'est pas seulement la tâche de KPK, mais aussi toutes les parties prenantes. Avec une grande sensibilisation du gouvernement et du public, l'éradication de la corruption est facile à réaliser. L'application de la loi doit également impliquer en distinctement pour effectuer la vision de la Commission à faire l'Indonésie exempte de corruption. La cohérence et l'engagement de toutes les institutions et les organismes d'application de la loi en Indonésie pour lutter non seulement contre la corruption, mais aussi divers autres crimes devraient recevoir le plein appui de toutes les parties, y compris le peuple indonésien. Donc, il y a la sécurité juridique pour créer la paix qui a un impact sur la confiance des investisseurs à investir en Indonésie. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition 22 septembre. Nous allons commencer le 22 septembre 1980. L'Irak a envahi l'Iran. Saddam Hussein attaque l'Iran de l'Ayatollah Khomeini. Des intérêts territoriaux sont en jeu, mais la véritable intention du dictateur irakien est de mettre un terme au régime de Khomeini, car il craint la prolifération de l'intégrisme à l'ensemble du Proche-Orient. Bagdad bombarde l'Iran visant des cibles militaires et pétrolières. Saddam Hussein reçoit un soutien international conséquent de l'URSS, de la France, de la plupart des pays du Golfe Persique ainsi que l'appui des États-Unis. 1,2 million de personnes vont périr dans cette guerre qui va durer 8 années. Un cessez-le-feu sera décrété en 1988. Les deux pays adopteront le statu quo et les dictatures de chacun d'eux se durciront davantage. 11 ans, le 22 septembre 1960, l'indépendance de Mali. Le Mali, officiellement République du Mali, est un pays d'Afrique de l'Ouest, frontalier de la Mauritanie et de l'Algérie au nord, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal de l'ouest, ancienne colonie française du Soudan français. Le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960. Après l'éclatement, la Fédération du Mali regroupera le Sénégal et le Soudan français. Sa devise est « Un peuple en but une fois » et son drapeau est constitué de trois bandes verticales vertes, jaunes et rouges. La République du Mali a conservé les frontières héritées de la colonisation, celle du Soudan français. Antérieurement, plusieurs royaumes et empires se sont succédés en englobant une partie plus ou moins importante du Mali actuel et des pays limitrophes. On termine le 22 septembre 1949, le président américain Harry Truman a annoncé au 22 septembre 1949 que l'Union soviétique a fait exploser sa première bombe atomique. Les États-Unis sont le premier pays à avoir la bombe atomique que les Pékin ont utilisée en 1945 pour bombarder le Japon et la victoire décisive des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les relations des États-Unis avec l'Union soviétique ont commencé de ne pas en amortir. La plupart des politiciens, même les scientifiques américains, pensent que l'Union soviétique a valu des années plus de développer des bombes atomiques que les États-Unis. Cependant, le 3 septembre 1949, des scientifiques américains captent des vibrations sismiques du sol constatées de l'Union soviétique des essais nucléaires. Le fait est le 29 août 1945. L'Union soviétique a testé avec succès une bombe atomique pour la première fois. Enfin, le 22 septembre 1949, le président américain Harry Truman a annoncé aux citoyens des États-Unis que l'Union soviétique avait testé une bombe atomique. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui, ce soir. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Le président Joko Widodo optimiste les étudiants indonésiens sont capables de rivaliser dans la communauté économique de l'ASEAN ». Le président Joko Widodo rappelle à tous les étudiants de Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor se préparent à l'ère de l'ouverture et de la concurrence.
Le président, dans son discours lors de la commémoration de 90 ans de Pondok Modern Gontor à Ponorogo, Java Est, le lundi, a déclaré que les étudiants ne doivent pas être laissés par la concurrence mondiale, qui était très difficile, et l'un des compétitions en cours est la communauté économique de l'ASEAN. Selon lui, progressivement, les étrangers qui font des affaires en Indonésie seront rencontrés. Pour être compétitif, la nation doit continuer à améliorer les ressources humaines, parce que sinon, des ressources naturelles abondantes et avoir la valeur économique élevée, telle que le pétrole, ne peuvent pas être maximisées ces résultats. Selon le président, les anciens étudiants de Gontor peuvent rivaliser et cette qualité doit être maintenue afin que la concurrence entre les pays puisse être gagnée. Le président apprécie les étudiants de Gontor provenant de Sabang jusqu'à Merauke, y compris de la Malaisie, la Thaïlande et les États-Unis. Le président Joko Widodo invite les étudiants et tout le peuple de l'Indonésie à aider le gouvernement dans ses efforts pour améliorer les conditions économiques et la facilité de faire des affaires dans ce pays. Parce que, selon lui, l'Indonésie est encore à la traîne par rapport aux autres pays de l'ASEAN. Le dirigeant de Pondok Modern Gontor Darussalam, M. Hassan Abdullah Sahal, a souhaité que l'arrivée du président Joko Widodo puisse motiver ses étudiants à devenir le président. Parce que depuis sa création jusqu'à maintenant, Pondok Modern a créé des leaders nationaux. La commémoration de la naissance de Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor a été assistée par, entre autres, le président de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, M. Zulkifli Hassan, le vice-président de MPR, M. Hidayat Nur Wahid, la ministre de Coordination du Développement Humain et Culturel, Madame Puan Maharani, le ministre des Affaires Religieuses, M. Lukman Hakim Saifuddin, et le chef de Pondok Modern Darussalam Gontor, Kyai Haji Hassan Abdullah Sahal Komlot. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Les communautés indonésiennes à la frontière avec les pays voisins ne peuvent pas être laissées derrière pour obtenir l'accès à l'information facile. Ils doivent obtenir des services optimaux du gouvernement indonésien compte tenu de l'ensemble des informations encouragera la qualité des ressources humaines indonésiennes, en particulier ceux qui vivent dans les régions frontalières. Cela a été dit par le vice-chef de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, Ahmadi Abbas, en marge du séminaire et l'atelier de Grace Road d'innovation dans la capacité croissante et la compétitivité des PME au bâtiment de LIPI, Jakarta, mercredi.
Jadi permasalahannya itu fasilitasi. Fasilitasi itu.
Donc le problème est les installations, non seulement la disponibilité des équipements et des infrastructures, mais aussi l'accès à l'étude. Il y a encore moins d'accès. De toute façon, notre pensée va développer et faire progresser si nous obtenons des informations de l'extérieur. Nous devons leur donner cette information, ainsi l'accès vers l'information pour ceux qui vivent dans la région frontalière devraient être donnés. En outre, Ahmadi Abbas a également déclaré que l'accès facile à obtenir de l'information pour les communautés indonésiennes à la frontière est une obligation qui doit être prioritaire. Les communautés devraient également obtenir des informations sur le développement indonésien pour augmenter leur niveau de vie. Les hommes d'affaires des petites et moyennes entreprises, PME, en Indonésie devraient augmenter la coopération avec les diverses parties concernées à développer l'économie. Le succès des hommes d'affaires devrait également être soutenu par la réglementation gouvernementale. Cela a été transmis par le chef de l'Institut de la démocratie pour la science et la technologie, Ilham Akbar Habibi, en marge du séminaire et l'atelier de grassroots de l'innovation dans l'amélioration de la capacité et la compétitivité des petites et moyennes entreprises au bâtiment de LIPI à Jakarta, mercredi.
Saya tekankan bahwasanya kalau kita mau sukses, kita harus membunuh klaster. Jadi adanya
je souligne si nous voulons être succès, nous devons former un cluster. Les PME doivent coopérer avec les institutions et les universitaires comme l'université ou l'école professionnelle SMK. Puis il y a aussi la coopération avec une communauté active qui a l'attention sur une question comme source d'information. Donc, tout doit être soutenu par le système de réglementation gouvernementale. Le gouvernement fournit des installations telles que les incitations et le soutien direct de la formation. Ilham Akbar Habibi a également déclaré que le gouvernement indonésien devrait mettre en œuvre une percée importante pour protéger et encourager l'existence des hommes d'affaires des PME. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que la restauration des tourbières et la destruction des forêts en Indonésie avaient besoin de coopération internationale car les pays du monde devraient également être responsables de tous les dommages. Cela a été dit par le vice-président Yusuf Kalla après une réunion pour discuter de la restauration des tourbières à New York, les États-Unis, mercredi soir. Selon le vice-président, la déforestation en Indonésie a eu lieu depuis 30 à 40 ans dans lequel les pays développés sont venus à exploiter les ressources forestières pour répondre à leurs besoins pour les meubles et des autres. Le vice-président Yusuf Kalla a affirmé il y a 30 à 40 ans, il n'y a de personnes indonésiennes qui ont participé à détruire la forêt. Mais les immigrants qui commettent des actes de vandalisme. Par conséquent, le vice-président espère que les pays du monde devraient également être responsables. Selon Yusuf Kalla, pour réparer les dommages causés aux forêts, l'Indonésie ne peut pas travailler seule parce qu'il requiert un coût très important. Le ministère des Communications et des Technologies d'Information, Kemkominfo, demande aux médias de masse dans la région frontalière pour maintenir une image positive de la nation et de l'État de l'Indonésie. Il a été déclaré le directeur général de l'information et de la communication publique, IKP de Kemkominfo, Madame Rosarita Niken Widyastuti à Batam, les îles de Riau, mardi. Les médias de masse dans la région frontalière ont la fonction de la diplomatie à la deuxième ligne entre les deux pays, de sorte qu'il faut garder l'image de l'Indonésie pour la communauté internationale. En outre, les médias de masse à la frontière, qui peuvent être accessibles directement par les pays voisins, doivent maintenir l'optimisme. Le président Joko Widodo donne une grande attention aux personnes à la frontière. Le ministère des Communications et des Technologies d'Information a déjà des programmes pour toucher les communautés frontalières en conformité avec ses obligations de donner des informations aux personnes à la frontière. Kemkominfo espère des informations actualisées qui peuvent être accessibles par les gens de la ville peuvent également être connues pour la société dans la frontière. Les gouvernements de l'Indonésie et le Timor-Leste ont convenu d'encourager l'achèvement des négociations de la région frontalière entre les deux pays. Cela a été dit par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, dans une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste, Hernan Nicolo, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 20 septembre 2016. Selon le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta mercredi, les discussions du progrès des négociations sur les frontières terrestres entre les deux pays est une préoccupation majeure dans la réunion bilatérale des deux ministres des Affaires étrangères. Bien qu'il existe encore des différents points de vue liés aux questions en cours de négociation, les deux parties croient que l'engagement et le soutien politique qui a été donné par les chefs d'État de l'Indonésie et le Timor-Leste seront en mesure d'accélérer le processus de négociation. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté de la coopération bilatérale dans diverses organisations internationales. La Chambre de commerce et de l'industrie, CADIN, cible l'Indonésie comme centre de la transformation de pêche dans le monde, en créant une synergie avec le gouvernement, documenté l'industrie de la pêche nationale. Il a été déclaré le vice-président de Cadine chargé de la mer et de la pêche, Yudi Prayanto, à travers un communiqué de presse cité par Antara. Selon Yudi Prayanto, le développement du programme de l'élevage des crevettes, des algues et de la pêche est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Il a dit qu'avec la croissance de l'industrie de la pêche nationale, le bien-être des pêcheurs indonésiens permettra également d'augmenter. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto, est optimiste que l'industrie de la pêche nationale va se développer immédiatement en ligne avec l'engagement du gouvernement à émettre une instruction présidentielle numéro 7 de 2016 sur l'accélération du développement de l'industrie nationale de la pêche. À cette fin, Airlangga a engagé à encourager la croissance de l'industrie de la pêche nationale et a besoin d'une forte synergie avec les parties prenantes concernées. Serge Ritard, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours dernières affaires presse qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La tradition de Saprahan. Le 15 septembre, le ministère de la Culture et du Tourisme de la ville de Pontianak organise le festival Saprahan pour les Lisiens, qui a lieu à Rumah Melayu sur la rue Sultan Syahrir Pontianak, Kalimantan Ouest. Le festival a soulevé la tradition de Saprahan, la culture de manger ensemble, nommée les Sehan. Dans ce festival Saprahan, la tradition des gens de Sambas est contestée. Les critères d'évaluation sont entre autres le menu alimentaire, le mode de présentation comprend la compacité et la propreté. On espère que via ce festival, les étudiants comprennent la culture de Saprahan. Saprahan dans la coutume malaise dérivé du mot saprah qui signifie berhampar, à savoir de manger ensemble par assis les jambes croisées sur le sol dans des groupes. Chaque groupe se compose généralement de 6 personnes. Tous les plats sont préparés sur le tissu de sapra, tandis que les outils et l'équipement comprennent le tissu de saprahan, l'assiette, la serviette de table, ainsi que la courbette de l'hôte, le bol de riz, le bol de plat d'accompagnement et la cuillère. Le menu étant servi entre autres le riz, divers plats d'accompagnement et les légumes qui sont cuisinés avec le goût distinctif des zones côtières. Dans le Saprah se compose généralement de 5 jusqu'à 6 menus présentés. On servit aussi l'eau de serbat. C'est une boisson typique provenant des ingrédients naturels mélangés avec des épices rouges. La tradition de Saprahan a des formes différentes, telles que Saprahan allongé et Saprahan court. Saprahan allongé est les aliments qui est préparé et servi sur le long tissu, le long de la chambre préparée. Les clients sont assis face au milieu des aliments. Saprahan en forme allongée n'existe plus dans les régions de Sambas. Ce saprahan existe seulement en dehors du district de Sambas, tel que Pontianak et ses environs. Saprahan court est le tissu avec la taille 1 par 1 mètre, et au-dessous du tissu et placer les plats pour les invités. Chaque chaprahan court est entouré de 6 personnes. Chaprahan court est encore appliqué à Sambas. La tradition culturelle de Chaprahan signifie égalité. Dans cette tradition, tous les gens mangent ensemble. Cette tradition est cerise en sang de la philosophie qui est plein de sang convivialité, la parenté, l'hospitalité, l'esprit social élevé et la valeur de forte fraternité entre la communauté de Sambas. Cette tradition jusqu'à aujourd'hui est encore trouvée dans la région de Sambas, Pontianak et ses environs, notamment dans la cérémonie de mariage traditionnelle. Chers amis, c'était notre programme magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, intitulé La tradition de Chaprahan. Merci à tous et à bientôt.
Couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans 4 coins du monde, voici le magazine de couleurs indonésienne, édition de jeudi. Et dans cette édition de cette soirée, en présent l'information sur sept festivals d'urbain qui animent la conférence des Nations Unies à Surabaya. Assurez-vous que vous restez toujours avec nous dans www.voi.co.id ou bien avec Division Directe par ondes courtes bien sûr 9525 kHz. Chers amis, la ville de Surabaya sera l'hôte de la conférence sur l'établissement urbain organisé par les Nations Unies. Cette conférence, appelée le Comité préparatoire de l'habitat pour les Nations Unies, est la troisième, c'est-à-dire la troisième fois tenue dans le monde et la première fois en Indonésie. Cet événement aura lieu le 25 juillet à 27 juillet à Surabaya, en province de Java de l'Est. Cette réunion sera animée par un certain nombre de l'agenda du jour en vue de la session de l'Organisation des Nations Unies, qui discutera le nouvel ordre du jour pour le nouvel développement urbain. On estime que les participants seront plus de 2000 de 136 pays. Chers fidèles amis, pour animer cette rencontre mondiale, la maire de Surabaya fera cet festival. En plus d'animer la conférence internationale, cet festival sera également de promouvoir tous les potentiels de la ville de Surabaya aux milliers de participants qui assisteront à l'événement international. Les sept festivals sont entre autres le Festival international de Serfolang dans la région de Pakuwonville, qui est aussi l'événement ou exposition de Serfolang qui sera suivi par quelques pays comme la Malaisie, Brunei Darussalam, Singapour, la Suède et Macao. Il y a aussi l'atelier pour les élèves à Surabaya, aéromodeling et le voir de Serfolang. Chers amis, outre le festival de Serfolang, il y a aussi le festival de Tunjungan, celui de mode sur la rue au long de Jalan Tunjungan de 25 jusqu'à 27 juillet 2016. Il y a aussi le festival de lanterne ou festival de lampes sur la rivière Kalimas. Dans ce festival, il y a le tour de Kalimas, le concours de bateau de dragon, le bateau de décoration et le parade de mode. Il existe aussi le festival de Bungkul également qui aura lieu au jardin de Bungkul. Dans cette site, il y a la présentation de jeux traditionnels pour les enfants, le concours de sandales en bois, la musique de cronchon et de jazz, et entre d'autres sites, le festival Jayang Rono dans le parc de Jayang Rono. Il y a aussi le festival du mangrove avec l'écotourisme de Wonorejo. Il aura l'exposition de batik et mangrove produits, aussi les performances instruments de percussion. Le festival de poissons de Bulak. Et il y aura des événements de concours bateau à voile à sa site, ainsi que le concert de jazz et le festival de gastronomie Bulak Barbecue. Chers amis, dans quatre coins du monde, c'était le magazine de couleurs indonésiennes, édition de jeudi, avec le thème de sept festivals d'urbains qui animent la conférence des Nations Unies à la ville de Surabaya, en province de Java de l'Est. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant du verdissement avec la couleur de la musique indonésienne qui va vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Serge Littekis et Serge Litter, bonsoir. Voici le magazine musical qui présente les musiques indonésiennes, soit pop et traditionnelles. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons les chansons pop. Sérigitar, récemment, le monde de la musique indonésienne est en deuil de la mort d'une chanteuse du genre pop jazz, January Christie. Elle a animé la musique indonésienne à la décade 80. Sérigitar, avant de connaître bien January Christie, écoutons maintenant la chanson intitulée Melayang. Bonne écoute.
Iwanmu korbankan mulut diri, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, khayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Terbawa asap diwara, sekejap tenggelam, karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang.
Iwana.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Janel Christy intitulée Melayang qui est reconnue aux années 80. Les chansons distinctives deviennent les différenciées parmi les chansons pop indonésiennes à ce moment-là. Chers auditeurs, voici la chanson suivante de Janel Christy intitulée Aku Ini Punya Siapa. Bonne écoute.
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh aduh pisang gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Putuskan saja tali cintanya. Thank you.
sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur jalan ternoda, aduh aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya.
La chanson intitulée « Aku ini punya siapa » avec beat swing jazz raconte la dureté d'une fille face à la tentation de quelqu'un qui veut détruire la pureté. Cette chanson révèle les nobles valeurs qui doivent être préservées une femme à l'âge du mariage. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les chansons suivantes de Janvier Christie. Bonne écoute.
Tiada ternoda, walau hari telah senja, rembulan malam bersinar tiada bosan menambah indah alam. Oh, ku merunduk dan memuji. Oh, indahnya ciptaan Tuhan. Bangkitlah jiwa, mari kita ciptakan suasana damai yang didambakan. Tiada ada rasa dendam sesama. Menyadari hati kehidupan, menikmati segala yang ada, agar di antara kita tercipta damai sentosa. Ternoda, walau hari telah senja, rembulan malam bersinar tiada bosan menambah indah alam. Oh, ku merunduk dan memuji. Oh, indahnya ciptaan Tuhan. Bangkitlah jiwa, mari kita ciptakan suasana damai yang didambakan. Tiada ada rasa dendam sesama. Menyadari arti kehidupan, menikmati segala yang ada, agar di antara kita tercipta damai sentosa.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, c'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie ce soir. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles à vous qui nous écoutez de quatre coins du monde. Renouvellement, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.